Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, notre invité ce dimanche revient sur un point d'histoire, celui selon lequel les Juifs de Judée furent contraints à l'exil après la destruction du deuxième temple de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Dans son livre « Berbères juifs », Julien Cohen-Lacassagne bouleverse complètement cette idée reçue en montrant que les Juifs d'Afrique du Nord sont des berbères judaïsés lors des incursions phéniciennes, car le judaïsme antique était alors, et bien avant l'an 70, fortement prosélyte. Un entretien passionnant à retrouver sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. Bonjour Julien Cohen-Lacassagne.
Bonjour Éric Bataillon.
Professeur d'histoire-géographie au lycée international Alexandre Dumas d'Alger. Vous collaborez également à la revue en ligne Orient 21, dirigée par Alain Grèche. Et vous publiez aux éditions La Fabrique cet ouvrage consacré aux berbères juifs, c'est d'ailleurs le titre du livre. Julien Cohen-Lacassagne, avant d'entrer dans le vif du sujet, soulignons que la préface est signée par l'historien israélien Shlomo Sand, lequel n'hésitait pas à dire dans un récent entretien à un journal national français que si la philosophie enseignée au lycée apprend comment penser, pour lui, l'histoire enseigne surtout quoi penser. Est-ce aussi votre avis ?
Oui, c'est une réflexion profonde en fait que Shlomo Sand a entamée sur justement qu'est-ce que c'est que l'histoire. Disons que la méthode, y compris celle que j'ai employée dans le livre, elle consiste à partir du présent et à partir du constat que l'histoire ne parle pas du passé, mais parle bien de la manière dont le présent recompose le passé. Donc c'était effectivement un point de méthode fort de partir du présent et de voir comment effectivement se construit une communauté avec un imaginaire, des mythologies, et de voir comment cette mythologie, cet imaginaire se confronte au réel.
Alors justement, vous écrivez dans votre prologue que la production d'un travail historique est un mensonge cherchant à dire la vérité.
Oui.
Et vous citez le romancier Kateb Yassin qui a préféré, lui, exhumer des histoires anciennes en romancier plutôt qu'en historien scientifique.
Oui.
Le roman en dirait-il plus et de façon plus authentique ?
Alors oui, alors moi c'est ce que je pense. En tout cas, je pense que la littérature en dit souvent plus. Alors, dans le livre, je m'amuse à dire que, par exemple, Flaubert écrit mieux et ment moins qu'un Lavis, cet historien de 19e siècle. En histoire, il n'y a pas besoin de mentir pour ne pas dire la vérité. L'histoire, c'est une question de focalisation sur un aspect, de point de vue. Et puis, évidemment, la démarche scientifique en histoire, moi, me paraît toujours délicate. Très franchement, j'ai du mal à me considérer comme un scientifique. Et j'ai du mal à considérer les historiens comme des scientifiques. Et j'insiste pour dire que ce n'est pas grave du tout, parce qu'on peut très bien avoir une perception du réel, on peut avoir un accès au réel, tout en n'étant absolument pas scientifique. Les philosophes ne sont pas des scientifiques, ils nous permettent d'accéder à une perception du réel, et les artistes aussi, et les historiens... je l'espère.
Alors, le quoi penser de l'État d'Israël serait que les Juifs d'Israël sont les descendants en droite ligne de leurs ancêtres hébreux et non les héritiers des convertis du monde entier. Serait-ce donc une fable ?
Si on part de ce récit d'une migration, d'un exil depuis la destruction du temple de Jérusalem, donc en 70, par les troupes de Titus, par les troupes romaines, on n'a aucune trace de cet exil. Alors évidemment, on sait que le temple a bien été détruit, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, le fait qu'il y ait une migration de masse qui suit la destruction du temple, il n'y a aucune trace. On sait par certains auteurs juifs, d'ailleurs, comme Philon d'Alexandrie, qu'avant même la destruction du temple de Jérusalem, il y avait de fortes communautés juives dispersées dans toute la Méditerranée, y compris d'ailleurs une très forte communauté juive à Alexandrie, où Philon d'Alexandrie vivait. Voilà, je n'accorde pas de crédit à cet exil, non seulement on n'a pas de traces, mais qui en plus est matériellement peu vraisemblable.
Alors dans votre premier chapitre, Julien Cohen-Lacassagne, il est question de civilisation judéo-musulmane.
Oui.
Or, on parle plus volontiers, notamment en Occident, de la civilisation judéo-chrétienne.
Oui.
En quoi la première vous semble-t-elle plus pertinente que la seconde ?
Oui, je suis très content de cette expression de civilisation judéo-musulmane, parce qu'effectivement, pour moi, c'était une manière d'abord de dire qu'il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne en Europe. L'élaboration de la chrétienté s'est faite non pas dans une fusion avec le judaïsme, mais dans une opposition, et parfois, souvent même une opposition violente, contre le judaïsme. Sur le plan idéologique et dogmatique, le christianisme s'est construit sur la base d'un peuple juif déicide, précisément sur la mythologie d'un peuple ayant perdu sa patrie, et c'est une mythologie d'origine chrétienne, ce n'était pas une mythologie d'origine juive. Hein. Donc on ne peut pas parler de civilisation judéo-chrétienne. La judéophobie qui s'est constituée au Moyen-Âge a été réexploitée par la suite dans des sociétés européennes déchristianisées, mais qui ont employé cette judéophobie avec une violence meurtrière jusqu'à aboutir au génocide. Dans le cadre du Maghreb, on a affaire à une civilisation judéo-musulmane au sens où coexistent deux communautés, coexistent deux ensembles. Évidemment, l'islam est politiquement dominant, mais par contre, il y a des influences qui sont réciproques entre les deux. Un même substrat arabo-berbère.
Et dans le même chapitre, vous faites un sort au terme séfarade.
Oui.
Pour vous, ce mot serait un abus de langage. Pourquoi ?
Oui, c'est un abus de langage. Alors, les séfarades existent, évidemment. Le séfardime, en hébreu, ce sont les Ibères. Ce sont donc espagnols, portugais. Et par extension, on a pris pour habitude d'appeler séfarades tous les juifs de la bordure sud et orientale de la Méditerranée. Lorsque les juifs d'Espagne et du Portugal ont été expulsés d'Espagne, en particulier au XVe siècle, un peu avant aussi. Beaucoup, pour ne pas dire la plupart, se sont réfugiés non pas au Maghreb, mais se sont réfugiés en Méditerranée orientale, et notamment dans les provinces ottomanes. C'est ce qui est à l'origine des communautés juives de Salonique, d'Istanbul, qui d'ailleurs ont conservé jusqu'à la période contemporaine une langue d'origine espagnole, c'est ce qu'on appelle le ladino. Et une partie d'entre eux, effectivement, sont partis se réfugier au Maghreb, mais pas au point, si vous voulez, de modifier la composition essentielle de la population maghrébine juive, et qui, encore une fois, est d'être maghrébine. Et d'ailleurs, l'espagnol a quasiment disparu de l'usage de ces juifs du Maghreb qui parlaient, avant la colonisation, l'arabe et le berbère.
Donc pour vous, les juifs du Maghreb qui ne sont pas issus oui. de la péninsule ibérique ne sont pas des séfarades en quelque
Ce
sorte
Ce sont des maghrébins. Et y compris d'ailleurs un certain nombre d'entre eux qui étaient qui venaient d'Espagne descendaient eux-mêmes de juifs arabo-berbères qui avaient participé à la conquête de l'Andalousie aux côtés des musulmans, notamment aux côtés des musulmans de Tariq ibn Ziyad.
Alors de nombreuses anecdotes parsèment votre livre qui montrent que les maghrébins de confession juive étaient totalement chez eux au Maghreb, c'était leur environnement. Ainsi, l'histoire du rabbin explorateur marocain Abi Serour.
Oui, oui.
Expliquez-nous comment il se comportait. Visiblement, il était chez lui partout dans cette région.
Abi Serour, c'est un type particulier, c'est un rabbin explorateur. Alors, il avait même été membre de la Société de géographie française. J'ai utilisé l'anecdote parce que, justement, c'était un point important pour montrer à quel point, effectivement, on peut parler de civilisation judéo-musulmane, puisque le rabbin Abi Serour a été le guide du père de Foucault au Maroc. Et pour faire passer le père de Foucault dans le royaume chérifien, pour lui faire passer la frontière marocaine, il l'a fait passer pour un juif d'Europe, parce que le royaume chérifien, à l'époque, on est à la fin du 19e siècle, autorisait la présence de juifs, mais pas de chrétiens.
Et donc, de Foucault étant, lui, un père chrétien.
Oui, il s'est fait passer pour un juif ukrainien.
Et son passe-droit, c'était le rabbin explorateur.
Et son passe-droit, évidemment, c'était le rabbin Abi Serour, qui, lui, évidemment, circulait librement dans tout le royaume.
Et ça, c'est un élément qui vous permet de dire qu'en fait, les juifs au Maghreb sont chez eux. Ce sont même des populations locales.
Oui, alors je ne fais pas de distinction entre les musulmans et les juifs du Maghreb. En fait, ce sont deux populations totalement identiques. C'est-à-dire un substrat arabo-berbère, si vous voulez, ce sont des berbères arabisés pour l'essentiel, certains ayant conservé une langue berbère, d'autres ayant complètement adopté la langue arabe. Je ne vois dans ces divisions berbères-arabes que des divisions linguistiques et pas autre chose. Non, pas du tout des divisions de nature ethnique. Simplement, ces deux populations ont choisi deux monothéismes différents, qui étaient des monothéismes par définition conquérants, prosélytes, le judaïsme, puis l'islam, parfois et l'islam, et il est probable qu'il y a eu des va-et-vient entre les deux religions jusqu'à une période assez récente.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Nous sommes en studio avec notre invité Julien Cohen-Lacassagne, professeur d'histoire au lycée international d'Alger, auteur du livre « Berbère juif » aux éditions La Fabrique. Julien Cohen-Lacassagne, votre second chapitre, « Ni exil, ni errance oui. », commence avec donc la destruction du temple à Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, on l'a dit tout à l'heure. C'est l'origine de la dispersion des juifs à travers le monde, selon le récit classique, mais vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord?
Non, Éric Bataillon, c'est pas une question morale. Mais c'est-à-dire que je le prends comme une mythologie. Et la construction de mythologie, un peu comme un film d'ailleurs de cinéma, ce sont des idées qui sont incarnées par des personnages. Et en ce sens, puisqu'évidemment nous n'avons pas de traces d'un exil de personne, ce récit d'un exil, il a un sens. Il a un sens qui est celui d'être un récit mythologique. Et l'un des sens de ce récit mythologique est celui de la dispersion non pas d'un peuple, mais d'une idée. Une idée pionnière qui s'est dispersée à travers la Méditerranée. Et cette idée pionnière, c'est le monothéisme. La première version de ce monothéisme, eh bien, c'est un monothéisme judaïsant.
Et un monothéisme conquérant,
bien sûr.
Prosélyte.
Bien sûr, prosélyte, évidemment. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un des axes forts du livre, qui est de montrer que l'Afrique du Nord a été un terrain d'affrontement entre le monothéisme et le paganisme, et que le premier monothéisme qui a engagé cet affrontement, qui était un affrontement en termes de conquête, c'est le judaïsme. En réalité, il ne faut pas voir les religions, évidemment, comme des objets stables, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Le monothéisme juif, il a mis du temps à se mettre en place. Et ce que j'essayais de montrer dans le livre, c'est que, en Afrique du Nord singulièrement, la matrice de ce monothéisme judaïsant, ce sont des comptoirs phéniciens, et notamment Carthage, où, disons, il y a eu une espèce de gestation, d'abord ce qu'on appelle une monolatrie, c'est-à-dire dans un panthéon, il y a une divinité qui est plus importante que les autres. En Afrique du Nord, c'est la figure de Baal Amon, par exemple, qui est une divinité d'origine phénicienne, qui est parfois confondue avec la figure de Saturne, le Saturne africain étant cette divinité qui surpasse un peu les autres. Et c'est donc dans cette espèce de berceau carthaginois que s'est constitué, alors à la fois un vocabulaire religieux, puisque les Carthaginois utilisaient la langue punique, qui est la version africaine de la langue phénicienne. Cette langue punique, ce vocabulaire liturgique punique, il est très proche du vocabulaire liturgique juif. Et des pratiques également, évidemment la circoncision, des interdits alimentaires. Et c'est là, si vous voulez, que s'est constitué ce que j'ai appelé un matériel judaïsant.
Mais alors, ces explorateurs juifs qui sont dans les bagages des Phéniciens, c'est quelle période? Et eux-mêmes, ce sont des voyageurs, ce sont des sédentaires plutôt?
Ce sont d'abord des Phéniciens. En fait, ils ne sont pas différents. Ce sont les Phéniciens, en réalité. Pour le dire autrement, ce ne sont pas les Judéens qui ont apporté un matériel judaïsant en Afrique du Nord, ce sont les Phéniciens. Si vous voulez, en étant un peu ironique, on pourrait dire que le judaïsme a été transmis en Afrique du Nord par des gens qui n'étaient pas juifs. Effectivement, parce qu'évidemment, ces choses-là se construisent. Il faut comprendre que le judaïsme, alors évidemment, le corpus idéologique premier du judaïsme est né en Babylonie, voilà. Mais par la suite, il s'est enrichi, évidemment, de matériaux empruntés à la Grèce et empruntés au matériel africain également.
Alors justement, parlons de l'Afrique et notamment du Maghreb. De quand date la conversion des communautés berbères au judaïsme?
Ouais.
Comment s'est-elle faite?
C'est très compliqué de donner une date précise, bien entendu. Mais l'hypothèse que je dresse, c'est qu'après la destruction de Carthage, donc on est en 146 avant Jésus-Christ, il y a ce matériel judaïsant qui s'était cristallisé à Carthage, va s'échapper. Il va s'échapper des remparts de la cité punique, et là, il va rentrer en contact avec des populations berbères, alors elles ne s'appellent pas encore berbères, ce sont des populations numides, qui comprennent le punique, parce qu'il y avait des contacts qui existaient déjà, notamment des contacts commerciaux avec Carthage, et qui ont besoin, ça répond sans doute à un besoin, d'une idéologie centralisatrice. Et de ce point de vue-là, le monothéisme, comment dire, est un ciment qui donne une cohérence à une société, surtout une société éclatée, et qui cherche à se rassembler, qui cherche à se donner une cohérence. Et cette cohérence, elle est beaucoup plus efficace, efficiente avec le monothéisme qu'avec le polythéisme.
Mais alors, les tribus berbères au Maghreb qui choisissent de se convertir à cette nouvelle religion monothéiste, oui, ils le font pour des raisons religieuses ou politiques?
Alors, un peu les deux, probablement. On peut, voilà, ce sont sans doute des fractions tribales. Alors, ce sont d'abord probablement des élites numides, qui eux-mêmes étaient ceux qui étaient le plus en contact avec les cultes orientaux qui se pratiquaient déjà à Carthage. Et faire allégeance à un souverain impliquait nécessairement de faire allégeance, de s'approprier son culte. Alors attention, je ne dis pas que ces numides du 1er siècle et du 2e siècle avant Jésus-Christ, ce sont tout de suite convertis au judaïsme. Ils se sont convertis à quelque chose qui était déjà, disons, un monothéisme de nature judaïsante. C'est d'abord parce que c'est le seul qui est disponible.
Et alors, l'expansion du christianisme en Afrique du Nord, est-ce qu'elle devient une menace et est-ce qu'elle marque la fin du prosélytisme juif dans cette région?
Alors, oui, mais progressivement. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les premiers siècles de notre ère, les premiers siècles après Jésus-Christ, au deuxième, au troisième siècle après Jésus-Christ, on va voir effectivement émerger cette idée nouvelle qu'est le christianisme. Dans un premier temps, d'ailleurs, c'est très difficile de distinguer les deux. Hein. Bon, il y a par exemple en Tunisie des fouilles archéologiques dans le cimetière de Gamart, qui est un cimetière juif, mais dans lequel on trouve des tombes chrétiennes. En fait, on n'arrive pas à distinguer les tombes juives des tombes chrétiennes. On sait qu'à cette période, donc entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, les synagogues étaient ouvertes aux non-juifs, hein, et notamment à cette catégorie très particulière et qui est connue, hein, qui est bien connue des historiens de l'Antiquité, qu'on appelle les phobouménoi ou sébouménoi ou les metuentes, ce qu'on appelle les craignants Dieu. C'est-à-dire que ce sont des monothéistes, mais qui hésitent entre judaïsme et christianisme. Et cette population-là, c'est l'enjeu précisément du christianisme et du judaïsme. Il faut les convaincre. Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a de Saint Jean, il y a cette idée que Dieu vomit les tièdes. Et bien, les tièdes, ce sont eux. Et c'est eux qu'il faut convaincre de sortir de cette tiédeur pour choisir le christianisme ou le judaïsme.
Les indécis.
Les indécis, exactement.
En revanche, y aurait-il eu une compétition entre judaïsme et islam dans cette région, le Maghreb ?
Oui, alors beaucoup moins. Beaucoup moins. Je vais peut-être revenir sur un point qui est important. D'abord, ce qui oppose le judaïsme et le christianisme. Ce qui oppose le judaïsme et le christianisme, c'est un enjeu politique. C'est celui de la conquête de l'Empire romain. Le judaïsme va combattre le paganisme romain par les armes, par l'épée. Il y a toute une série de révoltes, celle de 66 en Judée, celle de 115-117 en Cyrénaïque, celle de Bar Corba en 135, après Jésus-Christ. Ce sont trois échecs. À l'issue de ces trois échecs, ou progressivement, au fur et à mesure que ces échecs se sont échelonnés, eh bien, l'idée est venue que l'Empire romain ne pouvait pas être conquis les armes à la main, mais conquis par des armes nouvelles, qui sont celles de la conciliation, et aussi d'une simplification des règles religieuses juives. Et le christianisme va incarner précisément cet aspect-là, en se montrant plus conciliant avec l'Empire romain, et d'ailleurs, c'est l'un des éléments qui a fait qu'il est sorti victorieux de ce combat. Lorsque l'islam est arrivé en Afrique du Nord, précisément, le christianisme avait vaincu dans ce combat contre l'influence juive et contre le prosélytisme juif. Et de ce point de vue-là, le christianisme a été un adversaire plus important, plus sérieux que ces juifs d'Afrique du Nord. D'abord parce qu'il y avait un empire derrière, il y avait Byzance. Donc il était important pour les musulmans qui arrivaient en Afrique du Nord de se débarrasser de l'influence de Byzance. Derrière les juifs ou les judaïsants berbères, il n'y avait pas d'empire. Donc de ce point de vue-là, il ne représentait pas une menace. Alors il y a l'épisode de la Kaïna, mais qui est un épisode qui est difficile à interpréter parce que les sources sont très récentes par rapport à l'origine de ce conflit qu'il y a eu entre la Kaïna et les guerriers de l'islam. Hein.
La Kaïna qui était une reine.
Qui était la reine des Aurès. Hein. Peut-être, sans doute judaïsée, ou en tout cas, moi je le dis comme ça, régnant sur un territoire où l'influence judaïsante était importante. Et donc je reviens sur l'islam, mais donc ces musulmans arrivant en Afrique du Nord vont même parfois trouver des alliés juifs en Afrique du Nord. Les juifs d'Afrique du Nord étaient persécutés par Byzance, fiscalement, la liturgie juive avait été interdite à Carthage, occupée par Byzance. Hein. Donc tout ça a fait qu'effectivement, par certains aspects, les combattants musulmans ont été vus comme, disons, des libérateurs, au point que des contingents de berbères juifs ont participé à la conquête de l'Andalousie aux côtés des conquérants arabo-berbères musulmans.
Donc on retombe sur la civilisation judéo-musulmane.
Exactement.
Alors que la judéo-chrétienne, c'est une autre histoire.
Et Éric Bataillon, il y a quelque chose que je voulais ajouter aussi qui est, moi, me semble très troublant aussi et qu'il faudrait creuser. Hein. Mais il semble bien que dans une ville comme Kairouan a été fondée donc, en 670 par les musulmans.
Première ville, exactement.
C'est une place forte, hein, une place forte musulmane dans la partie centrale de l'Afrique du Nord, hein, où se sont installés évidemment des musulmans arabes, mais qui étaient très vraisemblablement suivis de juifs orientaux et qui ont installé des écoles juives à Kairouan. Tant et si bien qu'on peut pratiquement en tirer la conclusion, en tout cas dresser une autre hypothèse, qui est celle que l'islam a emporté avec lui en Afrique du Nord un judaïsme oriental qui était plus orthodoxe que ne l'était le judaïsme, disons, arabo-berbère d'avant le 7e siècle.
Merci Julien Cohen-Lacassagne.
Merci Bataillon.
Et je rappelle votre livre, foisonnant et passionnant, Berbère juif, il est publié aux éditions La Fabrique.
Merci.
Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golchani, portez-vous bien.